102, 3,
RLP, Bazar.
Et vous,
vous.
Bazar, et vous.
Expert en rien, on s'intéresse à tout.
Et vous.
Salut mes petits pandas, joufflu, on se retrouve pour la 8e émission de Bazar et vous, de Bazar et vous. Chaque fois est un plaisir de vous retrouver, yeah. Jamais seul dans cette aventure, toujours accompagné de mes deux petits potes, Thomas et Benjamin. Comment ça va les gars?
Ça va bien, et toi Benjamin?
Ça va vraiment très bien.
Mais aujourd'hui, que va-t-il se passer au sommet?
Je vais vous parler d'une thématique bizarre.
Et moi, je vais vous parler de dessins animés qui sont pas faits pour les enfants.
Les enfants?
Non, je finirai par le fameux micro-cro trottoir sur un sujet festif. On y va, on fait péter le son.
Bazar. Et vous?
On commence donc cette émission par ce mystérieux mystère que notre Thomas Bibibidi va élucider de suite après le jingle.
Oh, dread these computers, they're so naughty and so complex. I could pinch them.
Alors, j'ai beaucoup hésité avant de faire ce sujet, que l'on va mettre un peu dans une catégorie technologie slash art numérique, qui est déjà un peu de niche, mais qui contient, selon moi, les œuvres artistiques les plus marquantes de ces dernières années. Bref, on ne va pas rentrer dans la définition de tous les termes, sauf niche, pour y mettre ton chien, des barres, et on va tout de suite mettre les pieds dans le plat, tout éclabousser, en mettre partout, parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un très très gros morceau, une des créations artistiques les plus dingues dont j'ai pu entendre parler, myhouse.wad. On ne pourra ici que survoler le sujet, d'autant plus qu'au premier abord, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, parce que là, on va parler jeux vidéo, on va parler modding, on va parler santé mentale, on va parler géométrie non euclidienne, on va parler espace liminal. Tout un tas de termes que je vais absolument ne pas définir. Patience, le sujet va arriver. Mais avant, pourquoi? Pourquoi se fatiguer à parler de tout ça? Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que le jeu vidéo, de manière générale, a très mauvaise presse.
Oh là là, tous ces jeunes drogués et toute cette violence, cet abrutissage de la société, gna, c'est Pascal et Eric qui l'ont dit, hein.
Eh bien, auditeurs curieux, tout ça aujourd'hui va changer. Car l'œuvre en question, myhouse.wad, est une carte personnalisée du jeu vidéo le plus vieux et connu du monde, Doom. Dans un premier temps, on va poser ensemble le contexte. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Doom? C'est quoi le modding? Qu'est-ce que c'est qu'un forum? C'est quoi une communauté? Deuxième partie, une histoire, que je trouve très touchante, très humaine, voire presque simple, commune, mais qui va nous être racontée d'une manière très complexe et en même temps très subtile. Sans perdre un instant, c'est parti. Doom est un jeu à la première personne sorti en 1993 et développé par ID Software, un, si ce n'est le plus important éditeur de jeux vidéo à l'époque. Derrière eux se cachent des licences mythiques telles que Quake, Wolfenstein et la plus connue d'entre elles, celle qui nous intéresse aujourd'hui, Doom. Le concept du jeu, il est très simple. L'armée, encore eux, ont ouvert par mégarde un portail qui donne directement en enfer. Pas de bol, là-bas, c'est plein de démons. Mais maintenant, ils sont sur Terre. On incarne alors un marine américain, encore lui, et le but du jeu, il est très simple. Avec tout un arsenal d'armes allant de la tronçonneuse au fusil plasma en passant par le lance-roquettes, on va renvoyer tout ce joli monde directement dans le portail des enfers. Point. Fin de l'histoire. Mais alors, par quelle magie noire, 30 ans après, pouvons-nous encore parler de ce jeu? C'est-à-dire que même en prenant tout ton temps, mis bout à bout, Doom, tu le termines en une dizaine d'heures. Ça ferait donc 30 ans qu'une bande d'uluberlus s'amuserait à recommencer le même jeu encore et encore? Eh bien non, comme tu l'as deviné, auditeur assidu, il y a un petit truc en plus qui fait que le jeu arrive à se renouveler encore et encore. Ce truc, c'est le modding. Pas d'inquiétude, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les termes techniques. Le modding est au jeu vidéo ce que le tuning est à la voiture. C'est-à-dire que l'on va récupérer le jeu de base et en modifier certaines parties. Ça peut être très simple et ajouter des nouveaux monstres au jeu, des nouvelles armes, des nouveaux lieux à explorer, comme ça peut être beaucoup plus compliqué, comme modifier l'intégralité du jeu jusqu'à en faire un nouveau jeu à part entière. Si je reprends mon analogie tuning, c'est comme si à partir d'une voiture, à force de modification, j'obtiens un bateau. On poursuit, il existe un site internet du nom de doomworld.com, le monde de Doom, presque aussi vieux que le jeu lui-même. Dessus, comme sur n'importe quel forum thématique, on parle du jeu Doom. Des gens qui font des cartes modées, slash personnalisées, puis les partagent avec la communauté. Les gens en discutent, se donnent des conseils, c'est comme n'importe quel forum de discussion, cinéma, ornithologie ou petite cuillère en bois d'acajou de la fin du XVIIe siècle, ce site existe pas. Stop ! On a tout le contexte qu'il nous faut. À partir de maintenant, l'histoire commence. Retournons sur le forum. Le 3 mars 2023, un utilisateur du site doomworld.com, au doux pseudonyme de Veg, va poster un message quelque peu intriguant. Il nous explique avoir perdu récemment son meilleur ami et vouloir ici, sur le forum de Doom, lui rendre hommage. Il précise qu'après s'être rendu à l'enterrement de cet ami, il a fait un passage chez les parents du défunt et on lui a permis de récupérer quelques affaires de son ami d'enfance perdu. Parmi ces affaires, une vieille disquette informatique qui, après consultation, contenait une version modée du jeu Doom ainsi qu'une carte personnalisée. Quand je dis carte, comprenez un niveau, un lieu à explorer. Toujours dans son message, il continue d'expliquer que lui-même et Thomas, le nom de son ami décédé, étaient tous deux à l'époque, dans les années 2000, des modeurs acharnés de Doom. Il prend bien le temps de souligner que cette carte trouvée dans cette disquette ne lui disait rien du tout. Le nom de la carte, eh bah, vous l'avez déjà deviné, myhouse.wad, ma maison.wad. WAD, c'est l'extension du fichier, comme .pdf ou .jpeg pour les images. Il continue son explication. Dans la volonté de rendre hommage à son meilleur ami, il a décidé de reprendre sa carte inachevée, la finir pour ainsi la partager aujourd'hui sur le forum. Il finit son post par le message suivant. Faire des cartes Doom à l'effigie de ta maison était un peu trop à la mode à l'époque, mais moi je trouve que c'est un hommage adorable, plein de détails et surtout une façon géniale de partager quelque chose de lui, avec vous, une communauté qu'on a toujours aimée. Tu me manques, Tom. En cliquant sur le lien à la fin de son message, ça nous renvoie à une photo de deux hommes souriants, côte à côte, un bar en arrière-plan, très certainement Veg, l'auteur du message, et son regretté ami d'enfance, Thomas. Dès les premiers jours où la carte myhouse.wad a été mise en ligne via le message de Veg, la quasi-totalité de la communauté présente sur le site doomworld.com et bien au-delà vont se mettre à enquêter sur cette très 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 mystérieuse carte. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh ben au premier abord, pas grand-chose. Tout comme dans le jeu original, on entend la musique du premier niveau, le personnage que l'on joue semble être le même et on commence avec une arme basique, le pistolet comme dans le jeu de base. Cependant, la carte, le lieu dans lequel on apparaît, nous présente une maison typique des banlieues pavillonnaires américaines, avec son porche et son garage grand ouvert, le tout plutôt bien modélisé au regard du jeu de base qui a 30 ans. En visitant la maison, on y croise ici et là quelques monstres, on ramasse des clés qui ouvrent des portes verrouillées, et assez vite, on arrive à la fin du niveau. Ah bon ? Tout ça pour ça. Beaucoup de gens, devenus enquêteurs numériques entre-temps, ont refusé cette fin de niveau. Comment peut-on en arriver à bout en à peine 10 minutes ? Tout simplement parce que myhouse.wad, et c'est là que le bordel commence, est un jeu à fin multiple. Une seule bonne fin, très compliquée à atteindre, pour des dizaines et des dizaines de mauvaises fins du jeu. Revenons dans notre scénario. Bien que la fin soit décevante, il y a déjà une multitude de petits détails lorsque l'on visite la maison qui sautent aux yeux des joueurs les plus aguerris tout en les mettant quelque peu mal à l'aise. Par exemple, si l'on tue tous les monstres dans la maison et que l'on ressort de cette dernière, une fois dans le jardin, on pourra faire le tour de la maison et avoir un point de vue extérieur. Et à ce moment-là, au travers des fenêtres, on va apercevoir les monstres en vie que l'on vient de tuer. Et c'est pas tout, parce que si on s'amuse à compter les fenêtres visibles de l'extérieur, on va vite se rendre compte que ça ne correspond pas du tout avec celles présentes à l'intérieur. Tout comme ce grenier que l'on a visité quelques minutes auparavant, il n'apparaît pas vu de l'extérieur. Première et sûrement pas dernière grosse bizarrerie de myhouse.wad, l'utilisation de géométrie non euclidienne. Pour faire simple, toute forme de géométrie qui serait impossible dans notre monde à nous ici présent sera qualifiée de non euclidienne. Imaginez être présent dans une grande pièce à l'intérieur d'une maison. Devant vous, deux fenêtres. 3 mètres les séparent l'une de l'autre. Vous vous approchez de la première et vous avez vue sur la ville. Vous êtes au 8e étage, vous surplombez les maisons devant vous. Les voitures passent et klaxonnent en contrebas, des hordes de gens pressés marchent sur les trottoirs. Vous reculez d'un pas et vous allez voir à l'autre fenêtre, qui je le rappelle est quasiment juste à côté. De là, vous avez une vue sur une forêt silencieuse à perte de vue. Quelques montagnes discrètes se dessinent en arrière-plan. Vous ouvrez la fenêtre et passez votre tête au travers. Aucun signe de vie humaine, aucune voiture. Que votre regard aille de gauche à droite, il n'y a que forêt et silence. Ce genre de situation totalement impossible en notre monde est monnaie courante dans myhouse.wad. On va revenir un petit peu sur son auteur, le fameux Veg. Une semaine après la publication de la carte, pendant que tout le monde tourne en rond, un nouveau fichier va faire son apparition sur le Drive, l'espace de stockage où on peut télécharger la carte myhouse.wad. C'est un document texte qui porte un nom très simple, journal. Le jeu de pistes peut commencer. On comprend très vite qu'un certain Steven Nelson se présente comme l'auteur de ce journal intime. Il n'est autre que le vrai nom qui se cache derrière Veg, celui par qui tout a commencé. Le journal retrace la période de sa vie allant du mois d'août 2022 jusqu'au 9 mars 2023, date à laquelle le fichier a été déposé sur le Drive. Il nous décrit longuement sa peine d'avoir perdu cet ami très cher, nous parle en détail de la conception de la carte, quelles modifications il est en train d'y apporter. Et au fil de la lecture du journal intime, ça commence à devenir un petit peu flippant. Il nous raconte ses cauchemars en détail, il nous explique que la carte se modifie d'elle-même, je veux dire la carte en tant que fichier informatique. Je vais vous traduire un passage de son journal daté du 7 décembre 2022. Je suis en train de rejouer la carte afin de vérifier mon travail et je me rends compte de tout un tas de modifications et d'ajouts dont je n'ai aucun souvenir. On dirait que la carte n'en fait qu'à sa tête. Ce journal, à condition de bien l'interpréter, sera votre feuille de route dans l'aventure myhouse.wad. Par exemple, beaucoup de passages dans le jeu semblent être complètement aléatoires et dénués de sens. On passe la porte du placard et on se retrouve dans un aéroport. Eh bien, ces passages ont tous, sans exception, un sens dans l'histoire tant que l'on a le journal de Steven pour les décrypter. C'est ça qui est monstrueux avec myhouse.wad, la carte est remplie à ras-bord de bizarreries de ce genre, de musique qui saute, de lieux qui changent, on passe une porte, la maison entière derrière nous disparaît. Eh bah, aucun de ces éléments n'est gratuit. Que ce soit pour de la mise en scène ou pour l'histoire, tout fait sens. Cher auditeur, chère auditrice, ma chère Lisa, mon cher Benjamin, vous allez me détester et je vais vous laisser sur votre faim car je vais m'arrêter là. Conclusion. C'est extrêmement frustrant de juste survoler comme ça myhouse.wad. Mais mon but, c'était surtout de démontrer que le jeu vidéo n'est pas juste un truc de débilo. Hein. Et myhouse.wad, en plus d'être un hommage gigantesque à Doom, le jeu quasiment à la base de tous les jeux, c'est un énorme fourre-tout de toute la culture internet slash jeux vidéo de ces 30 dernières années.
Merci Thomas pour cette chronique.
Merci. Merci à vous de m'avoir écouté, de votre patience.
Cette chronique tout en jeux vidéo qui ouvre finalement nos esprits et enrichit notre culture générale. je parle comme une jeune. Et ça, c'est magnifique. Elle est géniale pour ça, cette émission. On y apprend plein de trucs, on brasse plein de sujets, c'est super cool. Hein.
Oui.
Mais pour sûr.
Mais c'est le moment de notre folie radiophonique. Instant pu.
Bazar.
Lotus. Une artiste.
Debout sur mes deux pieds.
Révélation.
Ton lasse à manger.
Les petits papiers. Son tout premier album.
Barbe sans moi. Oh baby. Messieurs déjà,
ouvrez votre cœur à son engagement hors du commun.
Guerre, ça tue des gens, et c'est vraiment trop triste. Même en Afghanistan, et c'est vraiment trop triste. Où sont passés les enfants, et c'est vraiment trop triste. Moi,
Lotus.
Les petits papiers. I miss you déjà.
Et on se retrouve pour la suite des événements avec l'intervention de notre Benjamin et ses petites mains.
Benjamin Petite Main,
qui aujourd'hui aborde un sujet pour les grands, les films d'animation pour adultes. Envoyez le jingle.
Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage.
Cinéma.
Mashup. De la bouillie de cinéma.
Salut, ça va? Non, je déconne.
Ça va super bien. Vous m'avez même pas posé la question en début d'émission.
C'est
les
vrai,
gars.
Ça. Je suis vraiment désolé. Non, pour de vrai, ça va.
Non, pour de vrai, ça va.
Vraiment.
Impeccable.
Bon, c'est cool. Bon, ben nickel. Je peux commencer ma chronique alors.
Oui.
Donc, comme tu l'as dit, Lisa, aujourd'hui, on va parler de dessins animés pour adultes, de films d'animation pour adultes. Car oui, la plupart du temps, quand on pense dessins animés, on s'imagine qu'ils sont plutôt destinés aux enfants. Et globalement, c'est vrai. mais cet a priori a causé pas mal de confusion avec notamment, je sais pas si vous vous souvenez, de l'histoire du Club Dorothée. Le Club Dorothée, pour ceux qui ont moins de 30 ans, c'était une émission destinée aux jeunes, aux enfants, qui diffusait des dessins animés, et qui s'est mise à acheter des animés japonais sans trop regarder ce que c'était. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des dessins animés ultra violents, absolument pas faits pour les enfants, comme Ken le survivant.
Ken, survivant de l'enfer.
Où on pouvait voir des corps exploser dans des torrents de sang, et autant vous dire que quand on a entre 5 et 10 ans, que c'est l'heure du petit-déj, et qu'on est habitué à des petits personnages tout mignons, et qu'on se retrouve devant ça, il y a un choc. Hein.
Oupsie.
Un peu ça, quoi. Et moi, j'étais un petit peu jeune pour avoir connu ça, mais je peux vous raconter ma première expérience, mon premier choc face à un film d'animation destiné aux adultes. J'avais à peu près 10 ans, j'étais en vacances chez mes grands-parents avec mon grand frère, et comme d'hab, on regardait la télé le soir en deuxième partie de soirée, on zappait de chaîne en chaîne, jusqu'au moment où on tombe sur un dessin animé, sur Arte, évidemment, qui met en scène des animaux anthropomorphisés, donc jusque-là plutôt classique pour un dessin animé, hein, il y a le Disney, toute compagnie, mis à part que ces personnages sont en train de faire la fête en fumant des pétards et en buvant de l'alcool dans un appartement. Là, je commence à sentir que quelque chose d'inhabituel est en train de se passer.
Oups, j'ai éteint la cloche.
Et soudain, on voit ces personnages s'agglutiner dans la salle de bain et commencer à faire une orgie, une énorme orgie dans une baignoire. Et là, c'est un peu le coup de grâce pour mon petit cerveau fragile de 10 ans. Je suis littéralement sous le choc. Mon frère se précipite sur la télécommande pour changer de chaîne. Et je vois bien qu'à ses réactions, j'ai vu quelque chose que j'étais pas censé voir, quoi. Et j'ai donc appris des années plus tard que ce film, c'était Fritz the Cat.
Ah, voilà autre chose! Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Mais merde-toi, Dieu, tire-toi, qu'est-ce que tu veux?
Ça, c'est quelque chose, alors, Fritz, on fait une partouze à la sournois. Fais-moi une petite place.
Sorti en 1972 et réalisé par Ralph Bakshi, et tiré du comics américain de l'auteur-dessinateur Robert Crumb, qui est l'un des pionniers de la bande dessinée underground. Et du côté des États-Unis, j'ai remarqué que pas mal de ces films d'animation étaient liés à la musique rock, la musique subversive par excellence à l'époque. Parmi ces films, il y avait par exemple The Wall, dont on avait déjà parlé, en parlant des films sur la drogue. Bon, là, j'ai un peu triché parce que c'est un film qui mêle prise de vue réelle et scène d'animation. Et les scènes d'animation, en gros, servent à retranscrire la dégradation mentale du personnage principal qui sombre peu à peu dans la folie. Dans le même genre, on avait aussi Metal Hurlant. Alors dans le même genre, en beaucoup plus léger, beaucoup moins sombre. Metal Hurlant, c'était un film à sketch d'animation, de science-fiction principalement, où pareil, on y voyait pêle-mêle sexe, violence, mais de manière un peu plus drôle, un peu plus funky. Et évidemment, quand t'es gamin et que tu tombes là-dessus, tu comprends pas vraiment grand-chose. Et voilà, et ces films, on y retrouve un peu la même recette à base de sexe, de drogue et de rock'n'roll, bien sûr. Et la violence dans tout ça, pour ça, il faut plus aller du côté du Japon, qui, comme je le disais plus tôt avec Ken le Survivant, par exemple, est bien plus en avance que les États-Unis en termes de dessins animés qui représentent de manière très graphique la violence. Violence parfois gratuite, mais parfois légitime quand il s'agit de raconter des histoires ancrées dans le réel. Comme le sublime et tragique Tombeau des Lucioles Isao Takahata, que j'imagine vous avez peut-être vu.
Des lucioles sous une moustiquaire, c'est comme des flocons de neige sur une vitre.
Petit trauma d'enfance, j'imagine aussi.
Encore une fois, que des choses que j'ai vues.
Mais tu le verras, tu m'en diras des nouvelles. Il faut le voir celui-là. Et en gros, le Tombeau des Lucioles, ça raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur rendus orphelins suite au bombardement d'Hiroshima, et qui vont se retrouver livrés à eux-mêmes et tenter de survivre. Et je pense que si j'avais vu ce film vraiment enfant, j'aurais pleuré de bout en bout et j'aurais arrêté parce que c'est assez horrible. Et dans la même veine, on pourrait citer les films Valse avec Bachir et Flea, qui eux sont ont tous les deux comme point commun d'être des témoignages de personnes ayant vécu la guerre. Donc on est plus proche du documentaire fictionné, en gros, où c'est l'animation qui va mettre en scène ce que racontent les deux témoins. Quoi.
Genre Persepolis, c'est un peu le même genre.
Et j'allais y venir, mon petit Thomas.
Oh, je suis dans ta tête, mec.
Mais je vois ça, t'es en train de matrixer. De manière plus légère, on pourrait aussi parler de l'excellent Persepolis de Marjane Satrapi, qui raconte son enfance en Iran et son exil en France lorsque son pays est devenu une dictature. Et c'est là que je trouve la définition de dessin animé pour adultes intéressante et un peu ambiguë, parce que est-ce qu'un film devient adulte lorsqu'on y représente par exemple du sexe et de la violence de manière explicite, ou est-ce que c'est le sujet qu'aborde le film, comme la guerre par exemple, qui le prédestine à un public adulte? Évidemment, aucun des films que j'ai cités au début n'est destiné aux enfants, mais la plupart d'entre eux seraient peut-être plus destinés aux adolescents, un peu à la manière des films d'horreur en gros, c'est... très gore, c'est violent, mais on peut pas dire que ce soit du film d'auteur qui va essayer de t'élever à un niveau intellectuel. Et c'est pour ça que il y a un peu une nouvelle case qui est apparue, c'est un peu la case ado-adulte, que l'on retrouve beaucoup dans les séries actuelles, notamment des productions françaises de chez Bobby Pills, Last Man, Vermine.
Ah, Bobby Pills.
Exactement, enfin voilà, Bobby Pills, je vous conseille de regarder ce qu'ils font, c'est très drôle et c'est très marrant. Évidemment, pas destiné aux enfants.
Ça, je connais, tu vois.
Eh ben, pour tu une vois, fois. Et tu confirmes. T'aurais vu ça enfant, ça t'aurait peut-être un peu marqué.
Oh non, ça aurait
non
été.
Non, vraiment.
Vous me mettez vraiment très mal.
En tout cas, il y a un truc, voilà, petite réflexion comme ça, au débotté que je vous lâche, que je me suis fait. C'est que l'animation a quand même un sacré avantage par rapport aux films en prise de vue réelle. C'est qu'il permet une mise en distance avec le réel. Je vais vous donner un exemple très parlant. Vous connaissez tous la série South Park.
Oui.
Merci pour la réponse. Au cas où, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas, South Park, c'est une série de la fin des années 90, début 2000, qui met en scène quatre garçons de 8 ans dans la petite ville de South Park, où il va leur arriver des histoires un peu folles. Et c'est une série particulièrement trash, avec un humour scatologique, qui est extrêmement drôle, et surtout avec des designs très enfantins. Les têtes des personnages, c'est quasiment des smileys. Et justement, imaginez... South Park fait avec des vrais acteurs et qu'en prise de vue réelle, ça serait juste abominable en fait. Ça serait irregardable, ça serait l'humour serait plus vraiment le même. Et du coup, c'est grâce à ces designs un peu foireux, un peu pétés et au dessin de manière générale qu'on peut aborder tous ces thèmes et de manière voilà aussi frontale. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là-dessus et j'ai peut-être une petite question à vous poser. C'est vous, est-ce qu'il y a des films que vous auriez vus enfant qui n'étaient peut-être pas destinés à vos petites,
voilà,
à vos petits yeux chastes?
J'ai pas fait mes devoirs, je sais pas.
Ben voilà, c'est comme ça, c'est la petite surprise.
Le Seigneur des Anneaux.
Ah ouais, il t'a... Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de violence.
C'est une espèce de créature, j'avais 6 ans, la créature Gollum, ça m'a traumatisé.
Un truc que j'ai vu petit et je pense que j'aurais jamais dû le voir, c'est Candyman.
Ah.
Ouais. Et mon frère, dédicace à toi, sale bâtard, si tu m'écoutes. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Candyman, pour faire simple, bon, en gros, tu dis trois fois son nom dans un miroir, il apparaît derrière toi. Qu'est-ce qu'il faisait, ce bâtard? Il m'enfermait dans la salle de bain, et tu pouvais éteindre la lumière de l'extérieur, il m'enfermait dans la salle de bain, il éteignait la lumière, et il faisait « Candyman, Candyman ». Et dès qu'il le disait deux fois, moi je faisais « Ne dis pas trois fois, non !»
Quelle chronique incroyable, j'ai envie de dire, c'est la surprise à chaque fois, petit bilou, bilou, bilou.
Ça t'a surpris, vraiment, sincèrement?
Sincèrement, ça m'a surpris, voilà, parce qu'elle a été concise, et elle ne s'est pas étalée sur 20 minutes.
N'est-ce pas?
N'est-ce pas? Oh,
oh ouais.
Non, en tout cas, merci Benjamin, vraiment, du fond du cœur, merci pour ces petites présentations. Ah
Mais alors
hein? Mais l'heure tourne, et quelle heure est-il? Ne serait-il pas l'heure du fameux micro-trottoir? Oh si alors!
Oh, oui.
Envoyez le jingle!
Micro, trottoir, de Lily.
Vous posez la question, répondez.
Ouais, juste pour savoir, c'est ça, c'est quoi le sujet?
La paix qu'il nous faudrait sur...
Et je sais qu'à chaque fois, vous vous demandez quel est le sujet de ce micro-trottoir. Les petits curieux! Patience, j'y viens, j'y viens. C'est jamais évident pour moi de trouver un sujet de chronique. Alors, n'y voyez aucun manque profond d'inspiration là-dedans. Non, juste une envie de vous surprendre à chaque fois. Et quoi de mieux pour vous surprendre que de raconter ma vie? Arrêtez, arrêtez, je sais que vous mourrez tous d'impatience de savoir ce que Lisa a fait pendant l'été.
Ça, c'est sûr.
Eh bien, mes petites loutres, vous n'allez pas être déçus. Pendant l'été, j'ai l'habitude de retourner sur le terrain où vit my mother, mi madre, ma mère, dans un petit village dénommé Escode. C'est un petit bout de terre perdu dans la forêt landaise que tu ne trouveras qu'après avoir parcouru 1 kilomètre de chemin sableux. Et à ce moment-là seulement, tu pourras y apercevoir des maisons. L'endroit est entouré de deux petites rivières, les pins nous enivrent de leur odeur estivale, et les fougères nous offrent un paysage verdoyant. C'est bucolique, n'est-ce pas?
Ça fait rêver.
Ce lieu perdu au milieu des bois landais nous déconnecte l'espace d'un instant de cette vie à 100 à l'heure. Silencieux, vous ne croyez pas si bien dire. Car cela fait maintenant un sacré bout de temps que chaque année, ce petit lieu magique accueille un événement. Un événement à ne plus louper si tu ne le connais pas. Et oui, depuis 13 ans maintenant, nous, habitants du lieu, voisins, cousins, amis, nous nous affairons chaque été pour créer, recréer, préparer et faire vivre notre petit festival Nautic Zik. Une question pour vous, Nautic Zik c'est quoi ?
Nautic Zik, c'est l'amour, c'est le partage et c'est le bonheur. Nautic Zik, c'est des copains, c'est de la musique, de la convivialité, la bonne ambiance et c'est le rendez-vous annuel.
La danse.
C'est de la danse.
C'est le rendez-vous des babos.
C'est l'occasion de nous faire kiffer, de faire kiffer les gens.
C'est le partage avant tout. Et puis surtout, une bonne dose de rigolade.
Nautixic, c'est un festival à taille humaine qui sait retransmettre l'amour, tout comme... Je ne sais pas, en fait, je sais pas quoi dire. Juste, c'est trop bien, en fait, et on en perd les mots, finalement, parce qu'on peut pas définir Nautixic, c'est trop compliqué, c'est trop d'amour, c'est trop beau. Voilà, je sais pas quoi dire.
Vous l'aurez compris, Nautixic, c'est un festival de fous avec une ambiance conviviale, et c'est le moment où tu retrouves tes potes autour de la bonne bière du mascaret, ou la bonne limonade du mascaret, devant des groupes géniaux. Oui, vraiment des ambiances musicales très très variées. Et d'ailleurs, ils en pensent quoi les artistes de ce festival?
C'est quoi le nom de votre groupe?
Le groupe s'appelle Killjoy.
Killjoy. Ça fait un petit moment que vous venez à Nautix.
Oui, on a fait quasiment toutes les éditions, sauf une je crois, qui était en 2019.
Et qu'est-ce qui vous donne envie de revenir à chaque fois?
C'est avant tout l'ambiance, qui est le cadre très familial, cette ambiance très chill, où tout le monde est gentil, très en détente, tout le monde est ouvert, tout le monde se parle, il n'y a pas de soucis. Ouais, c'est avant tout une ambiance, et puis le contexte musical est très sympa aussi, il y a plein de groupes de tous les styles musicaux qui arrivent, qui se rencontrent, et qui à la fin jouent ensemble à une jam, donc c'est magnifique.
Et le public?
Et le public est formidable, bien sûr. Est très endiablé et respectueux.
Comment se passe votre festival?
Bah, très bien. J'ai super bien mangé, un rougail saucisse. Les gens sont de plus en plus nombreux. Même avec ce temps voilà, qui nous passe un petit peu sous les aisselles, qui fait froid au nombril. J'ai hâte de jouer.
Et oui, parce que toi, t'interviens en tant qu'artiste, en fait.
Et oui, tout à fait, j'interviens en tant qu'artiste avec le spectacle Petit Oiseau, qui est un one woman qui parle d'anxiété avec légèreté et autodérision, finalement.
Des artistes heureux, des festivaliers comblés, une programmation au top, avec en plus, cette année, une mise à l'honneur des arts de la scène, avec des spectacles de clowns, du théâtre, de l'impro, parce que nous, on aime rire, on aime ça, se marrer.
Et puis c'est pas tout, parce qu'une fois sur deux, il y a Madame Lebrun qui débarque. Arrêtez maintenant, Tatifille, arrêtez d'arrêter mes fleurs. Tes fleurs? Attends, tes fleurs? Non mais espèce de vieux guéridon, la nature, elle t'appartient pas. Non mais oh, j'ai pas raison. Oui, c'est moi qui les ai plantés, qu'elle me dit. Elle est bien bonne celle-là, c'est quand même moi qui les cueille tous les matins. Non mais oh, j'ai pas raison.
Vous l'aurez compris, ce petit festival est l'événement incontournable des Landes l'été. Mais un événement aussi bien mené ne peut pas se monter tout seul. Oh, ça c'est perspicace. Et non, 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 non. Nautixic, avant d'exister au grand public, c'est ça.
Petit déj à 8h, décollage à 8h30 pour en majorité tous venir ici pour vraiment avancer à la fraîche. Et là, on a principalement les structures...
Les grosses structures à terminer.
À avancer.
Ou à commencer à monter.
Bah, je vous fais la petite liste pour que vous ayez une idée de ce qui se passe demain. Donc, installer toilettes et douches sur le camping, finir le balisage du camping, finir les toilettes du site, c'est des draps à mettre, continuer les garde-corps tout le long du site ici, commencer à réfléchir à la zone pipi du fond, avancer la buvette, avancer la crêperie. Et si possible, commencer à faire des tipis.
Et oui, il faut de l'organisation, beaucoup, beaucoup d'organisation, des réunions, des missions en plein soleil, il faut planter des piquets, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut du soutien et une équipe soudée.
Tavernier, à voir.
Comment avez-vous vécu cette 13e édition?
Assez sympathique, retrouver les collègues bénévoles, et en plus, ce festival cette année... unique car il s'est agrandi. Et ma foi, on avait tous peur que ce soit plus Nautix. Et ça l'est encore. L'énergie de Nautix est là.
Les jambes lourdes.
Plutôt bien du coup alors.
Oui, oui, on fait beaucoup de kilomètres. C'était chouette. Les artistes, ils veulent pas partir.
Les artistes veulent pas partir.
Du coup, la buvette, elle ferme un peu tard. Voilà.
on transgresse les règles déjà.
Non, c'est pas vrai. On essaie de les faire partir, mais ils ont du mal à partir. Un peu comme les guêpes autour de la tireuse.
Toi aussi, tu penses qu'il faut améliorer les toilettes sèches au camping?
Je sais pas, j'ai pas testé. Mais en tout cas, les toilettes sèches sur le site du festival sont vachement bien décorées. Et franchement, j'ai kiffé.
Allez chier dedans?
Ouais, et en plus, il y a plein de lectures. Donc, tu vois, tu vas chier, tu t'assois, et tu découvres qu'il y a un porte-gobelet. Du coup, tu poses ton gobelet. Tu découvres qu'il y a un porte-manteau aussi. Et tu fais, ah, il y a un porte-manteau. Mais tu l'oublies la prochaine fois que tu y vas. Et ensuite, tu te rends compte qu'il y a plein de lectures sur les côtés. Du coup, tu commences à lire. Et puis, voilà, moi, je savais pas lire. Maintenant, je sais lire, quoi.
Et le temps file, et en fait...
Ça fait 3 jours que je suis coincé dans les toilettes, quoi.
Merde. C'est pour ça qu'on te trouvait plus.
Ouais, c'est ça.
Tu peux faire du bruit, là?
Vas-y, fais du bruit.
Ah mince, c'est pour ça que ça marche, enfin, dans les 7, c'est normal. Et ouais, ça se passe bien, en fait, un peu fatigué, c'est normal. Pourquoi fatigué? Comment ça, fatigué? fatigué, c'est quand même du taf. Ah bon? et de la fête. Un petit mélange de taf et de fête. De ta fête.
Combien d'heures de sommeil dans les pattes, là?
4. Ça va, hein.
C'est une vraie nuit, en fait.
Ouais, presque. Enfin... 4 avec une journée de travail avant et une journée de travail après, et il reste encore une nuit, voire plus. Donc tout va bien.
Qu'est-ce que tu penses de cette 13e édition, toi?
Je kiffe, c'est plus grand, c'est plus beau, il y a beaucoup plus d'énergie, il y a encore plein de choses à faire et plein de choses à améliorer. Du coup, on peut dire que la marge de progression est folle, ce qui est bien.
Nautixix, c'est une aventure humaine qui t'embarque dans l'océan de tes retranchements. Nautixix, c'est des rires, des pleurs, de l'entraide, de la détermination, du stress parfois. Beaucoup, de la fatigue, de la joie, du bambou, partout, des galères, de la pluie, pas mal cette année, des déceptions, des fiertés, des conversations sans queue ni tête sur le comptoir de la buvette, des crêpes, énormément de crêpes, un événement à notre image, pas toujours évident à mener, mais qui continue d'exister et qui grandit et nous fait grandir chaque année. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez aller checker le Facebook de l'événement sur la page Nautixix, le site internet ou encore l'Instagram. Purée, comme on est trop à la page, quoi. Je fais carrément notre pub. Et vous, chers auditeurs, on vous y retrouve l'an prochain?
Témoignage.
Oh oui, bien sûr, je me passionne.
Oh, oui. Oh, j'ai hâte.
Trop cool, alors rejoins la team. Non, après, ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'il faut savoir qu'on est parti il y a 13 ans, on est parti vraiment de rien. On était une bande de jeunes. Pour les plus jeunes, on avait... Les plus jeunes avaient 9 ans et les plus âgés avaient 18 ans. Donc, c'est comment... on avait dans l'idée d'organiser une grosse soirée entre amis, mais avec entrée plus ou moins payante. Donc en fait, au début, c'est comment être dans les règles quand il connaît rien, comment faire en sorte d'accueillir du public avec deux pauvres barnums, comment mettre aux normes. Et en fait, d'année en année, on s'est amélioré, on a grandi autour de ça. Mon petit frère, qui au début était à côté de l'ingé son, a lui demandé « Oh, mais comment ça fonctionne ?» et tout ça. Et maintenant, ingénieur son et lumière, et c'est lui qui maintenant s'occupe des petites scènes qui sonorise tout ça. Donc je trouve ça quand même super cool, de par cet événement qui a lieu une fois par an, on se retrouve et on évolue en compétences et tout ça, et chacun a sa place.
Ah ouais.
Donc pour ça, c'est vraiment
carrément. Puis ça avait de la gueule, hein. Je veux dire, moi j'y étais, c'est vraiment de la gueule. T'avais une vraie scène, tu vois, c'est pas genre 3 planches, une guitare et on s'ennuie. Non, t'as une vraie scène, des vrais gens, des vrais artistes, un vrai système son, t'as du bambou partout, t'as c'est vraiment ultra stylé, quoi, tu vois. C'est pas pour dénigrer, mais tu vois, c'est pas la fête à la saucisse où on t'a ramené 3 baraques à frites.
Des très bonnes fêtes à la saucisse.
Les très bonnes fêtes à la saucisse.
Mes petits chamois, l'émission touche à sa fin. Ça aurait été encore une fois un beau patchwork de ce que nous sommes. Nous sommes 3 et ensemble, en fait, nous sommes 1, quoi.
Oh, c'est beau, hein.
Putain, je vais pleurer.
Et on espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie. Nous, comme d'habitude, on se marre à créer tout ça pour vous. D'ici là, prenez soin de vos frimousses et on se retrouve tout bientôt. Allez, des bisettes, zzzz. Oh.